C'est un récit personnel qui témoigne à la fois des quelques bienfaits et des nombreux ravages d'un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, particulièrement auprès des journalistes, Twitter. Formidable terrain d'expression devenu en partie un champ de boue, un lieu virtuel où les injures, les menaces sont devenues légion, un lieu également où se diffusent de fausses informations pouvant mettre en danger la démocratie. En tout cas, c'est votre thèse. Bonjour Samuel Laurent.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce récit « J'ai vu naître le monstre », livre publié aux Arènes, Le Monstre et Twitter. Ce réseau que vous connaissez bien, vous avez ouvert un compte dès son lancement en France, c'était en 2008. Vous étiez alors journaliste web pour le Figaro, puis vous avez continué à l'utiliser de plus en plus, même quand vous êtes parti pour le journal Le Monde, pour qui vous travaillez encore. Avant de parler de votre livre et de ce qu'il contient, je voudrais votre réaction à une nouvelle polémique liée à Twitter, et dont on vient de parler dans le journal des médias d'Antoine Genton. Un candidat de The Voice a été écarté de l'émission pour des tweets racistes et homophobes écrits quand il avait 17 ans, il y a 4 ans, il en a 21 aujourd'hui, et exhumé ses tweets par des internautes. Qu'est-ce que cette affaire dit de Twitter, si tant est qu'elle dise quelque chose de Twitter aujourd'hui ?
Elle dit beaucoup de choses de Twitter. Elle dit déjà sa place centrale aujourd'hui, effectivement, dans l'actualité. C'est-à-dire qu'il suffit de mesurer, ça c'est un cas, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, si on fait le tri dans les informations de la journée, énormément se sont sinon déclenchés sur Twitter, en tout cas se passent en partie sur Twitter. La polémique en ce moment, par exemple, sur les cantines végétariennes à Lyon, ou celle sur l'islamo-gauchisme, entre guillemets, ce sont des choses qui s'expriment sur Twitter. Et c'est bien la preuve que ce réseau, s'il a une place centrale aujourd'hui dans le débat public, et une place qui sont doute est un peu disproportionné. Et sur ce candidat-là, ça dit autre chose, ça dit aussi le côté implacable des réseaux sociaux qui sont effectivement terribles parce que c'est une forme d'écriture éphémère, Twitter, en tout cas ça devrait l'être. Vous êtes là, vous écrivez un petit truc de 180 signes, d'autant plus quand vous avez 17 ans, que vous êtes adolescent, mais 10 ans après, on peut retrouver ces archives et vous les remettre en face de la figure avec des conséquences parfois graves. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. Il y avait eu le cas de Menel il y a quelques années également dans The Voice, dont on avait exhumé aussi des posts Facebook pour le coup.
C'était elle-même qui avait décidé de quitter l'émission, oui. À la différence de c'est Vivi, vrai. Ce rappeur-là. Et aussi, ça pose aussi une autre question. C'est quand il écrit ses tweets, il a 17 ans et la loi n'est pas la même suivant qu'on est ou non majeur ou mineur.
Absolument. Après, c'est un choix de la production que moi j'aurais du mal à commenter, mais je trouve qu'effectivement c'est un peu problématique, surtout pour cette génération qui grandit avec les réseaux sociaux et qui du coup a des textes comme ça publiés en ligne très jeune. Enfin, moi j'aurais pas forcément envie qu'on relise ce que j'ai pu écrire à 16 ou 17 ans. Je pense que ce serait pas terrible. J'aurais surtout honte, je pense. Ouais. Je pense pas avoir écrit des trucs racistes.
Mais pour les avoir lus, je vais pas les répéter ici, mais c'était spécialement homophobe, avec même des appels au viol. C'est quasiment indécent à lire. Alors, on parlait de votre livre, Samuel Laurent, j'ai vu naître le monstre. Naître mais pas grandir. Est-ce qu'il est en train de grandir, ce monstre Twitter ?
Il est en train, en tout cas, il a atteint une espèce de maturité qui en fait vraiment le centre aujourd'hui. On l'a bien vu avec Trump, notamment récemment, le centre de l'expression et du débat public, ce qui est quand même un problème parce que Twitter, c'est une entreprise qui est là pour gagner de l'argent. Pour gagner cet argent, son but, c'est pas de faire des débats de la meilleure qualité possible, c'est de capter l'attention des gens le plus possible pour qu'on y soit le plus possible.
Ouais, ce qu'on appelle l'économie de l'attention.
Ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et du coup, vous êtes effectivement dans un système où Twitter favorise beaucoup, parce que c'est une expression brève, parce que c'est en temps réel, etc., les clashs, les quand la culture de l'opposition en fait frontale et de la bagarre quelque part.
Je vais pas dire que c'était mieux avant, mais c'était pas comme ça au début. Vous êtes sur Twitter depuis quand ?
Depuis 2008, donc depuis presque les débuts en France.
Vous y êtes inscrit pour quelle raison ?
Au départ, je voulais...
Parce que c'était votre métier ?
Parce que c'était mon métier, parce que c'était ma génération que je m'intéressais à la technologie. Et puis à l'époque, pour les rédacteurs, moi j'ai commencé sur le web, c'est vrai qu'on était devant un écran la plupart du temps. C'était aussi un moyen, une récréation, un moyen de communiquer avec d'autres gens, de faire des blagues, de s'amuser. Et il y avait un peu un esprit au début de Twitter, un peu potache, un peu rigolo, de gens un peu d'entre-soi. Et puis rapidement, c'est devenu un réseau beaucoup plus politique, notamment en 2000, quand il y a eu la campagne de 2012, avec beaucoup de militants qui sont arrivés dessus, et c'est devenu quelque chose de beaucoup plus sérieux, qui est devenu de plus en plus sérieux et de plus en plus le royaume des gens qui ont des choses à dire, des indignés, des militants, des gens qui protestent. Et à la fois, ça devient ça aussi, parce qu'il y a énormément de journalistes dessus, donc c'est vrai que vous avez toutes les chances d'être entendu si vous vous exprimez sur Twitter, beaucoup plus que sur une autre plateforme. Et puis les politiques aussi sont venus en masse sur Twitter, parce que ça leur permet ils publient plus de communiqués de presse aujourd'hui, ils publient des tweets, mais du coup, eux aussi, vous pouvez les toucher beaucoup plus facilement que Facebook, par exemple.
Avec Nadine Morano qui a confondu, non, Christine Boutin qui a confondu hier Jésus sur la croix avec Jésus, le footballeur.
C'était assez magnifique. Oui.
Twitter fut un plaisir, une drogue, écrivez-vous. Comment êtes-vous passé du plaisir à l'addiction ?
Je pense que le problème, c'est que Twitter est addictif, c'est-à-dire que sur Twitter, le jeu, c'est d'avoir un message partagé, de se faire en sorte que le message qu'on écrit soit le plus partagé possible. Donc c'est un petit jeu à chaque fois, de trouver un petit jeu de mots, une petite blague, une petite formule rigolote, et on est content quand on voit que son message est très partagé, on se dit « Ah super, j'ai fait un bon jeu de mots, j'ai fait une bonne blague ».
Vous, c'était quand ? Dès le début, vous êtes devenu accro ?
Oui, dès le début quasiment. Après, Twitter, faut reconnaître que c'est un outil qui est assez intéressant, notamment pour des journalistes, parce que ça permet de faire une veille informationnelle quand même très efficace. Mmh. Et puis, c'est un outil qui nous permettait, voilà, de briller, de sortir un peu de du côté. Quand on est journaliste web, on fait beaucoup de réécriture de dépêches, de choses qui sont pas très marrantes. Ça permettait aussi de faire des choses un peu plus rigolotes, de s'amuser, de donner son avis, sans doute trop d'ailleurs à l'époque, sur beaucoup de choses, sur l'actu qui se passait.
Mais évidemment, si vous publiez ce livre, c'est que Twitter n'en est pas resté là. Sont apparus les insultes, les injures, les menaces. Vous avez dit, ça peut presque dater à la campagne présidentielle. Vous racontez les indignations, parfois individuelles, souvent collectives, sans que les utilisateurs en aient forcément conscience. Je vous cite, sur un réseau social, la meute, la foule, n'a jamais conscience qu'elle en est une. Est-ce que Twitter est conçu pour cela, pour accueillir, faire grandir ses colères, ses indignations ?
Alors, est-ce qu'il est conçu pour ça au départ ? Je ne sais pas. En tout cas, il est devenu effectivement un vecteur de ça. C'est le grand classique, c'est que vous allez faire exister quelque chose à force de le détester. Et c'est-à-dire, vous allez chercher un tweet de quelqu'un qui dit quelque chose de choquant, et puis tout le monde va s'indigner. Mais du coup, tout le monde va propulser le tweet qui va être vu par plus en plus de gens qui vont s'en indigner, etc., etc. Et ça fait boule de neige, et ça fait en fait apparaître aussi des épiphénomènes qui, quelque part, finalement, on ferait mieux de les laisser dans leur coin. Et il serait vu par moins de monde que s'il n'y avait pas cette espèce de torrent qui accompagne ces indignations et qui souvent contribue à publiciser finalement ce dont on s'indigne.
Le harcèlement, vous en parlez, quelques dizaines de messages d'injures en 2012 qu'on pouvait trouver ici et là, plusieurs milliers en 2019, soit par vague, soit au compte-gouttes. Est-ce qu'on peut s'en protéger ?
On peut s'en protéger en s'exprimant moins. Après moi, les derniers harcèlements que je raconte, donc en 2019, ceux qui ont fait que j'ai quasiment arrêté ce réseau, en tout cas arrêté de m'y exprimer, c'est vrai que je m'exprimais déjà plus beaucoup, quoi. C'était pas suite à des tweets que j'avais pu faire où je donnais mon avis, c'était vraiment suite à des articles qui avaient déplu, en l'occurrence aux partisans de la majorité LREM, qui nous sont tombés dessus par vagues, effectivement, de centaines et sur des semaines. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui, c'est-à-dire que s'en protéger, c'est soit quitter complètement Twitter ou vraiment arrêter sa présence, soit filtrer très fortement ce qu'on reçoit comme message, mais du coup on perd quand même beaucoup de l'intérêt du réseau. Ça devient vraiment une machine à publier juste des communiqués ou à dire j'ai fait tel article, faire un peu de pub. Donc ça perd un peu de son charme, quoi. C'est-à-dire que l'objet même de Twitter, c'est quand même pas ça.
Vous n'avez pas arrêté totalement Twitter ?
Je continue à le regarder beaucoup parce que malheureusement ou heureusement, enfin c'est encore une fois très difficile pour un journaliste de pas y être.
Je veux dire le sens de ma question. Vous écrivez quitter Twitter, c'est un peu comme arrêter de fumer. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Je vais pas vous demander à combien de paquets vous êtes par jour, mais vous pourriez aussi créer un compte sous un autre nom que le vôtre.
Tout à fait, ouais. Alors après, ça fait presque 2 ans maintenant que je m'y exprime plus du tout, donc je suis relativement plus eu de polémique. Mais c'est vrai que je pourrais complètement fermer mon compte et me créer un compte anonyme et me contenter de ça. Bon, je continue avec le mien parce que ça me permet aussi de faire un peu de pub sur mes articles de temps à autre, hein, mais c'est vraiment minimal.
Et pour votre livre publié aux Arènes, j'ai vu naître le monstre, sous-titré « Twitter va-t-il tuer la démocratie ?» Quel déclic ? Qu'est-ce qui vous a fait vraiment arrêter Twitter ? On en parle juste après ça avec Samuel Laurent. À tout de suite. En compagnie de Samuel Laurent, journaliste au Monde, ex-journaliste média au Figaro. Il écrit ce livre aux éditions des Arènes. J'ai vu naître le monstre. C'est sous-titré « Twitter va-t-il tuer la démocratie ?» Vous avez quitté Twitter, pas tout à fait quitté, mais vous êtes vraiment mis en recul. Et le déclic pour vous, ce fut le 2 mai 2019. C'est au lendemain d'un incident lors de la manifestation du 1er mai à Paris. Des manifestants était entré dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le ministre de l'Intérieur de l'époque parle d'une attaque. C'en était pas une. C'était, son nom m'échappe à l'instant, Christophe Castaner. Et vous décidez d'enquêter pour comprendre ce qui s'était passé. Vous le faites en direct, c'est-à-dire que vous racontez sur Twitter ce que vous découvrez au cours de vos recherches. Et là, avalanche d'injures.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans cette bataille de récits qui peut se construire sur Twitter aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez, donc à l'époque, moi je dirigeais Les Décodeurs, qui est un service qui fait de la vérification factuelle. Tout le monde affirme, les partisans de la majorité, et notamment le ministre, disent les manifestants sont rentrés dans l'hôpital, ont mis en danger les patients, ce qui est faux. En fait, ils sont rentrés dans la cour, c'est immense, la Pitié-Salpêtrière, et il y a quelques personnes qui se sont réfugiées dans un bout de cour, sans jamais rentrer dans un bâtiment. Et les partisans de la majorité vont alimenter ce récit du ministre en essayant de construire quelque chose sur ces manifestants violents qui sont rentrés dans l'hôpital. Et quand on leur donne tort et qu'on dit non, c'est pas ce qui s'est passé, bah ils sont pas contents. Donc ils viennent nous le dire de manière assez virulente. Et puis on se décide, parce que ça fait un moment qu'on a ce problème de militants très virulents pour la majorité, qu'on a vu apparaître avec les Gilets jaunes, d'enquêter sur eux. Et c'est ça en fait qui va les rendre complètement fous, c'est que je vais me mettre à enquêter sur le fait qu'il y a en amont de ces groupes une organisation. Ils vont sur des groupes privés, sur des messageries comme Telegram, et ils se coordonnent, ils se donnent des cibles, ils se disent tiens, aujourd'hui il faut qu'on vise machin ou faut qu'on vise truc, parce qu'il a dit tel Voilà, c'est ce qu'ils appellent de la riposte.
C'est informel, c'est informel ou c'est organisé à l'intérieur même d'un parti?
Non, c'est organisé à l'intérieur même de LREM et je tombe sur des groupes où il y a des députés comme Aurore Berger qui participent, où l'idée c'est de piloter ce qu'ils appellent donc la riposte, donc d'aller notamment cibler des journalistes qui disent des choses qui leur déplaisent.
Et alors là, ils disent quoi sur vous?
Et bah là, sur moi,
parce
ça devient...
Parce ne se contentent pas de dire votre information est fausse.
Non, évidemment. Donc, ils disent sur moi que je suis vendu, que je suis pourri, que je suis mélenchoniste, que je suis séditieux, que je suis un mauvais journaliste. Et puis surtout, ça dure. Et c'est dans des volumes que j'ai rarement connus. C'est-à-dire que j'ai connu, c'est pas la première fois que je me fais harceler sur Twitter en 2019, évidemment, hein, en y étant depuis bientôt 10 ans. J'ai déjà eu des militants d'extrême droite, d'extrême gauche qui me sont tombés dessus. Mais c'est vrai que jamais avec autant d'ampleur, jamais autant de tweets. Je compte que notamment sur une journée, je crois que j'en arrivais à plus de 6000 mentions qui me tombent dessus de la part de partisans de la majorité. Parce que c'est des gens qui aussi multiplient les comptes pour faire masse, ont des techniques comme ça pour... Et c'est vraiment du harcèlement qui devient du coup pénible à vivre en fait. C'est
pénible
vraiment,
jusqu'à quel point?
Jusqu'au point où je finis par en faire un mini burn-out, où vraiment j'en peux plus, j'en ai marre. Je fais une crise de colique néphrétique, un calcul rénal, qui est un classique qui paraît des gens stressés, enfin des hommes stressés précisément. Ouais. Et je dois prendre quelques jours d'arrêt maladie parce que je suis vraiment au bout du rouleau par rapport à ces histoires, quoi.
Et comment se fait-il que ce sont plutôt des gens sensés, vous venez de citer Aurore Berger qui est députée de la République, comment se fait-il que le déni, la preuve de ce que vous avancez ne suffise pas à faire taire ce torrent de boue?
Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est tout le problème quand on parle de post-vérité ou de crise de la vérité, c'est qu'effectivement aujourd'hui ce qu'on veut c'est plus la vérité, c'est imposer son récit.
Je veux dire le sens de ma question, ça je l'ai entendu beaucoup de fois, mais je pensais que c'était l'apanage des extrêmes. Je ne pensais pas que ce soit le parti majoritaire à qui on puisse reprocher la même chose qu'à l'extrême droite ou à l'extrême gauche.
Je pense qu'il y a une forme de course aux armements, c'est-à-dire que si les autres le font, vous êtes obligé vous aussi d'avoir votre armée de militants finalement et de rentrer dans cette bataille de récits. Et je pense qu'il y a une peur de la perdre. Là, en l'occurrence, c'était face aux Gilets jaunes. Il fallait faire quelque chose pour la bataille de l'opinion, on va dire. Et donc cette bataille, elle passait notamment par avoir sur les réseaux sociaux une armée de partisans. Ce que j'ai découvert dans mon enquête, c'est qu'il y avait énormément de comptes qui se sont créés au moment des Gilets jaunes, un mois après, ou alors qui ne tweetaient plus du tout et qui se sont remis à tweeter, et qui d'un coup se mettent à tweeter frénétiquement pendant des mois et des mois sur un seul sujet qui est tapé sur les Gilets jaunes, comme des sourds, ce qui montre bien qu'il y a vraiment une forme d'instrumentalisation.
Ce sont les mêmes textes, ce sont des copier-coller, ou est-ce que chacun réécrit sa petite version?
Il y a des éléments de langage, on voit apparaître des éléments de langage communs. Il y avait notamment une image de manifestants qui était montée sur une guérite de l'hôpital qui m'a été envoyée des dizaines de fois par des dizaines de comptes différents en quelques minutes, ce qui montre bien qu'il y avait une organisation en amont. Mmh. Et il y a clairement des éléments de langage, c'est-à-dire qu'ils peuvent les adapter à leur sauce, ils copient-collent pas forcément texto, mais on voit bien qu'en amont, il y a des groupes sur lesquels ça s'organise.
Voilà, et comme on parle ici avec un masque, je précise que vous avez bien dit des dizaines de comptes.
Oui, tout à fait.
Qui vous l'envoyez.
Oui,
non, vous aviez bien prononcé, mais je voulais
la précision est nécessaire.
Qu'on ne refasse pas naître une nouvelle polémique qui n'aurait pas lieu d'être. Je voudrais vous faire écouter le témoignage d'un journaliste comme vous. Il s'appelle Sylvain Lapoix. C'est lui qui, le soir des attentats du 13 novembre 2015, a lancé sur Twitter le mot dièse porte ouverte ou le hashtag porte ouverte pour que des gens puissent trouver refuge dans le quartier de Paris où les attaques étaient menées. Pourquoi je le montre? Parce qu'il peut y avoir un usage plus modéré de Twitter. Sylvain Lapoix était l'invité d'Europe 1, 8 jours après, et voici ce qu'il disait de Twitter.
Fondamentalement, il y a une confusion qui est souvent faite, c'est qu'on considère qu'on va sur Twitter par défaut, alors qu'en fait non, c'est par qualité, c'est parce que c'est un endroit où on peut parler à n'importe qui. Quand on cherche de la solidarité, quand on est égaré dans une ville qu'on ne connaît pas, ou en panique tout simplement, on va trouver et on va envoyer un message à n'importe qui, et ce n'importe qui c'est des centaines de milliers de personnes. Et là on a vu s'exprimer absolument tous les sentiments de manière spontanée et justement sans filtre, sans attendre que les médias, les prescripteurs et autres ne choisissent ce qui était valide, légitime ou pas. Donc on a vu de tout. On a vu de la solidarité, on a vu des blagues, des lendemains et on a vu absolument tous les sentiments qui pouvaient émerger dans ce genre de situation.
Pour paraphraser Sylvain Lapoix, s'adresser sans filtre à n'importe qui, ça peut également avoir du bon.
Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que les réseaux sociaux sont bons à jeter à la poubelle. Si on prend des choses comme MeToo par exemple, c'est vrai que c'est quelque chose de très puissant qui peut libérer une parole et Twitter pour ça est un outil intéressant. Mais encore une fois, il est intéressant parce qu'il permet d'interpeller des journalistes, des politiques qui sont tous dessus et qui sont très attentifs à ce qui s'y passe. Donc évidemment, c'est des choses qui peuvent être très positives, ça peut être aussi parfois moins. Mais toujours est-il que ce qu'il faut voir, c'est qu'on donne vraiment une place très centrale à ce réseau dans le débat public et peut-être trop centrale. Notamment, c'est une autre réflexion que je soulève dans le livre, si on n'a pas vu venir les Gilets jaunes, c'est peut-être aussi parce qu'ils étaient beaucoup sur Facebook pour s'organiser et que Facebook, les journalistes, ils sont beaucoup moins actifs et surveillent beaucoup moins ce qui s'y passe.
Place centrale, quel poste plus éminemment surveillé que la présidence de la République aux États-Unis? Vous consacrez un chapitre à Donald Trump. Le président était un troll. C'est le le titre de ce chapitre, et vous dites qu'avec lui, c'est Twitter et sa culture qui accèdent au pouvoir avec toute la mauvaise foi, toute la hargne, tout le délirium propre au réseau social. Pourquoi est-ce que Twitter a attendu la toute fin de son mandat pour réagir? Ce que je précise, que le réseau a d'abord signalé certains tweets l'automne dernier avant de suspendre le compte de Trump seulement le mois dernier.
Parce que Twitter, comme beaucoup de réseaux sociaux, mais c'est particulièrement vrai pour lui, n'a jamais voulu prendre en compte cette question de la modération. Il n'a jamais voulu dire qu'il était un éditeur, c'est-à-dire qu'il avait le devoir de veiller à la qualité de ce qu'il
n'a jamais voulu jusqu'à la toute fin.
Voilà, jusqu'à la toute fin, où finalement ils l'ont fait de manière assez, assez brutale, assez, sans qu'on comprenne d'ailleurs trop pourquoi à ce moment-là. Alors, il y avait eu les événements du Capitole, mais effectivement, comme vous le disiez, ils signalaient depuis des mois ces tweets comme faux. Pourquoi ils n'ont pas pu faire une riposte plus graduée? Pourquoi ils n'ont pas réfléchi? Pourquoi ils n'ont pas contacté la Maison-Blanche? Enfin, on ne sait pas vraiment, et c'est tout le problème de ces réseaux, c'est qu'effectivement, ça se décide dans le secret d'un bureau quelque part en Californie.
Et vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut faire le ménage? Est-ce que c'est à Twitter de faire le ménage, ou est-ce que c'est aux démocraties? On arrive au sous-titre et au cœur de votre enquête et de votre réflexion.
C'est, je pense, la grande question. C'est qu'aujourd'hui, il y a un rapport de force qui doit se jouer entre État et GAFAM. En ce moment, c'est le cas en Australie, où vous avez Facebook qui est dans un bras de fer avec la presse australienne, qui est en train de perdre d'ailleurs Facebook, puisque donc Facebook avait dit qu'il supprimait qu'il empêchait les journalistes de publier des choses sur sa plateforme. Et puis finalement, Facebook est en train de revenir sur sa décision. Mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui on a privatisé ces espaces publics au profit d'entreprises dont le but, encore une fois, n'est pas de créer un débat public sain, il est de maximiser des profits.
Votre livre est sous-titré « Twitter va-t-il tuer la démocratie ?» Est-ce que c'est une question rhétorique, ou est-ce que le risque, selon vous, est bien réel?
Je trouve qu'en tout cas, il l'a déjà changé, il en a déjà changé le visage, alors pour le meilleur ou pour le pire, on évoquait MeToo qui est plutôt le meilleur, et puis Trump, c'est peut-être le pire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces espaces sont totalement sujets à manipulation, donc ça peut être par des partisans de la majorité, mais ça peut être dans d'autres cas par des puissances étrangères, et par des lobbies industriels, etc. Il y a le cas, par exemple, sur le glyphosate, on a pu démontrer qu'il y avait des comptes qui agissaient pour le compte de lobbies ou qui arrivaient à entraîner des communautés pour aller défendre le glyphosate coûte que coûte. Donc ça pose quand même cette question de la sincérité des débats sur ces réseaux.
D'un mot, vous êtes inquiet pour l'élection de 2022?
Oui, parce que je pense que Twitter va jouer un grand rôle là-dedans et que de manière générale, la désinformation et le complotisme sont des choses qui sont vraiment en train de monter, qui risquent de ne pas redescendre d'ici 2022. Et je crains qu'on soit beaucoup, beaucoup dans cette rhétorique-là. Ouais.
Merci beaucoup, Samuel Merci Laurent. J'ai vu naître le monstre. Twitter va-t-il tuer la démocratie? C'est publié par les éditions Les Arènes. Merci d'avoir été avec nous en direct. Dans un instant.